Monsieur
Oui, oui. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui chez Filigrane pour rencontrer le président Giscard d'Estaing suite à l'apparition de son dernier livre, un roman paru aux éditions De Fallois Ixo sous le titre La princesse et le président. Monsieur le président, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, monsieur le président, pourquoi, après avoir incarné, écrit l'histoire de France, avez-vous décidé de nous écrire, de nous raconter une histoire et une histoire d'amour ?
Bon, parce que je suis un être vivant. Voilà, alors vous imaginez que les présidents de la République ou les premiers ministres ne sont pas des êtres vivants et qu'à partir du moment où leur fonction se termine, on les enferme dans une boîte ou dans un cercueil. C'était d'ailleurs la réalité autrefois. Au XIXe siècle, XVIIIe siècle, la plupart des gens qui ont quitté le pouvoir mouraient dans les 6 mois ou 1 an. Mais comme je quittais le pouvoir à 55 ans, je n'avais pas d'intention aussi désespérée. Et j'avais donc une tranche de vie devant moi que j'ai occupée à toutes sortes de choses. Alors je l'ai consacré à un grand sujet qui est l'Europe. J'ai donc rédigé un texte qui était à la Constitution européenne. Qui, à mon avis, aurait été le meilleur best-seller possible, mais enfin, elle a rencontré ici ou là des difficultés. Et puis, j'avais depuis toujours le goût de la littérature, et le goût de la littérature, c'est à la fois lire et écrire.
Donc, toute personne qui aime lire a plus ou moins l'idée d'écrire,
et cette idée d'écrire, je l'ai eue depuis le début de ma carrière. Alors, j'ai écrit des articles, j'ai écrit des chroniques. J'ai écrit un premier roman en 1994 et un deuxième roman maintenant. Alors on va en parler, mais je vous expliquerai pourquoi celui-là.
Alors c'est vrai qu'en 94 c'était le passage aux éditions Robert Laffont. Aujourd'hui c'est La princesse et le président. Comme vous venez de le dire, on oublie trop souvent que derrière les statues, il y a des êtres humains, des êtres de chair et de sang. Mais sans doute, monsieur le président, c'est beaucoup plus facile d'exprimer justement ses émotions en tant qu'écrivain plutôt qu'en tant qu'homme politique.
Non, en tant qu'homme politique, on exprime des émotions politiques. Alors les émotions politiques, elles ne sont pas négligeables. Mais elles ne se situent pas dans l'univers du sentiment, en fait. C'est plutôt l'émotion et l'impression. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup la rencontre avec la foule. Et je considérais la foule comme une personne. Quand je parlais, je regardais la foule comme je regarde une personne et je communiquais avec la foule comme on communique avec une personne. Donc il y a bien une expression de sentiment, mais ce ne sont pas les sentiments affectifs, ou en tout cas assez peu. On ressent quelques émotions à l'occasion de la disparition de quelqu'un ou à un échec très sévère d'une personne qu'on aime, etc. Mais dans la vie politique, ce sont plutôt des émotions liées à la vie publique. Alors que dans le roman, comme vous le savez, toute l'histoire du roman, depuis longtemps, le roman français, le roman russe, et ainsi de suite, il y a toujours au centre une histoire d'amour, même si l'écrivain ne l'écrit pas pour ça. Le roman le plus célèbre, probablement le plus vendu peut-être dans votre librairie, je ne sais pas, qui est Guerre et Paix. Quand on parle de Guerre et Paix, Tolstoï n'a pas écrit Guerre et Paix pour le prince André et pour Natacha, pas du tout. Il a écrit Guerre et Paix pour raconter la campagne de Russie et l'occupation de Moscou, c'est ça qui l'intéressait. Mais le public a retenu l'intrigue qu'il y avait dans son livre. Donc il y a inévitablement dans le roman une expression de sentiment et d'affectivité.
Alors vous évoquez la foule, monsieur le président. La foule est présente aujourd'hui pour vous écouter. Finalement, ce qui nous unit, nous réunit, nous permet de vivre, n'est-ce pas, l'amour au niveau de l'individuel, le politique au niveau collectif. Et aujourd'hui, croit-on encore à l'amour, à la politique dans un monde qui semble de plus en plus cynique?
Bon, c'est pas à moi de fournir la réponse, n'est-ce pas? Je me suis plutôt placé dans une autre optique, qui est les effets de la rencontre. Je considère que dans la vie, la rencontre d'un être, c'est quelque chose de très important, en fait. Et qu'il y a dans l'instant de la rencontre et dans la description de la rencontre quelque chose de très fort qui se prolonge et qui se développe, etc. Le sentiment, je ne le décris pas en tant que tel dans mon livre. Le sentiment, c'est un produit de la rencontre, mais il est éprouvé par les personnages. Et comme les personnages parlent peu, puisqu'ils dialoguent, c'est à eux de le dire, et ce n'est pas à l'auteur de le dire. Autrement dit, ce n'est pas le roman, enfin, je ne voudrais pas critiquer d'autres auteurs, bien sûr, mais dans lequel on détaille indéfiniment les sentiments imaginés, d'ailleurs, des personnages. Les personnages vivent, mènent leur vie. L'un est président de la République française, l'autre est une princesse britannique. Ils mènent leur vie, ils se rencontrent, ils se connaissent. Mais les sentiments qu'ils éprouvent, ils ne le disent pas dans le livre. C'est au lecteur de les imaginer.
Alors en tout cas, à travers ce roman, vous orchestrez l'amour et la politique, puisque comme vous venez de le dire, il s'agit d'une princesse, il s'agit d'un président, donc une union franco-britannique. Dès lors, finalement, votre engagement dans la construction européenne, elle se marque toujours à tous les niveaux, elle vous accompagne au quotidien.
Pas dans ce roman, ce n'est pas un appendice à la Constitution européenne. D'ailleurs, c'est un roman qui est franco-britannique. Or, comme vous savez, le cœur de l'Europe n'est pas exactement franco-britannique. Il est plutôt franco-belge, franco-germanique que franco-britannique. Mais effectivement, ça se passe en Europe, ça se passe dans la culture européenne, et à ce titre, c'est un roman européen. Il n'est pas critique et désobligeant pour les Britanniques, parce que j'ai pour ma part beaucoup de respect pour la Grande-Bretagne, et notamment pour sa remarquable civilisation du 19e siècle et du 20e siècle, et donc je la traite dans mon écrit avec beaucoup d'égard.
Alors là, vous anticipez la réponse à la question suivante. J'allais vous dire, mais pourquoi diable une princesse anglaise? Car nous aussi, monsieur le président, en Belgique, nous avons des princesses.
Alors ça, vous soulevez un problème extrêmement délicat. Non, j'ai d'ailleurs beaucoup de respect et d'affection pour les princesses belges, et en particulier pour la princesse Astrid, que j'ai eu l'honneur de recevoir la campagne chez nous. Donc, j'ai, je répète, beaucoup d'affection et de respect. Et en même temps, de reconnaissance, parce qu'elle a pris une photo de moi. Elle est très bonne photographe. Et parmi les meilleures photos de moi qui existent, il y a celle qui est prise par la princesse Astrid. Mais les relations franco-belges sont subtiles, délicates, et je ne voulais pas jeter le pavé d'un roman dans cette mare.
Ce qui soulève, monsieur le Président, la question, jusqu'où peut-on aller dans le mélange entre l'imaginaire et la réalité?
Alors c'est un problème très intéressant en fait, et bon, on ne va pas aller très loin dans le détail. Bon, le roman, c'est un acte d'imagination. Ce que le lecteur a parfois un peu de mal à imaginer, parce que lui ne sépare pas très bien le réel de l'imaginaire. Mais l'auteur fait un travail d'imagination. Alors l'imagination, ça se nourrit d'éléments. Donc il y a des personnages, il y a des décors, il y a des besoins de respiration, de nourriture, et ainsi de suite. Donc le roman emprunte beaucoup au réel. Pour ma part, moi, le roman se détache du réel. Il appartient à la famille bien connue des rêves, c'est-à-dire qu'on est dans le réel, puis tout qu'on s'échappe. Dans le roman, on s'échappe. Alors, il y a plusieurs catégories de romans. J'imagine d'ailleurs qu'il serait intéressant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, peut-être même ici, sur les catégories de romans. Il y a le roman historique, Alexandre Dumas, etc., qui est un roman qui part de faits historiques, ensuite on modifie plus ou moins, mais auquel on garde une apparence de vérité historique. Il y a le roman totalement imaginaire, c'est-à-dire la fantaisie de l'esprit qui part dans une direction tout à fait abstraite. Alors moi je me suis placé dans une catégorie un peu différente, c'est-à-dire d'abord c'est un roman contemporain. C'est dans le monde actuel. Pas tout à fait actuel, je dirais s'il fallait le dater, il n'y a pas de date exacte, mais c'est plutôt les années 1990, en gros. Donc le monde quand même actuel. C'est un roman qui se passe dans un décor que les gens ne connaissent pas. Alors dans la littérature, souvent, enfin la grande littérature sociale, par exemple, de la fin du 19e siècle, on cherchait à reproduire ou à décrire des lieux de vie qui étaient des lieux de vie de la population, point de vue habitation, commerce, circulation dans la rue, etc. Et je me suis dit, les lectrices et les lecteurs ne connaissent pas les lieux de pouvoir, connaissent pas. Bon, ils les voient, vous passez devant le Palais Royal ici, vous passez, non pas sur le trottoir, parce qu'on en interdit l'accès, mais sur la chaussée de l'Élysée, enfin de l'Élysée, etc. Donc on les aperçoit. Mais on ne connaît pas l'intérieur des lieux de pouvoir. Il y a eu un film à la télévision française, il y a un mois à peu près, qui était un très bon film, ce n'était pas une critique, sur la mort de Félix Faure, qui s'est passé à l'Élysée dans des conditions quelque peu romanesques. Et le décor était faux. C'était pas l'Élysée. Bon. Là, j'ai voulu que les lecteurs aient un décor vrai. Et donc, les descriptions sont très soignées et, je l'espère, très exactes, pour que les lectrices et les lecteurs se sentent dans les lieux, en fait. Et ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient par la fenêtre, etc., c'est ce qu'on voit. Alors, ceci étant, c'est le décor, bien entendu. Les personnages, eux, sont imaginaires dans ce décor.
Alors, dans ce décor, il y a énormément de femmes. Dans votre roman, les femmes ont une grande importance. Elles jouent même le premier rôle. Mais finalement, quand vous étiez président, sous votre mandat, monsieur le président, les femmes également avaient déjà une grande importance, puisque c'est avec vous que pour la première fois en France, il y a eu des femmes ministres.
Alors, c'est pour la première fois qu'il y a eu, en effet, plusieurs femmes ministres, dont quelques-unes devenues célèbres, qu'il y a eu une Française présidente du Parlement européen, qu'il y a eu une législation très active sur les droits de la femme. Et vous savez que, par exemple, en France, jusqu'à mon septennat, elle ne pouvait pas gérer seule un compte en banque. Hein ? Il fallait la co-signature du mari, ou etc. Elle n'avait pas d'autonomie financière. Le système dotal français était un système extrêmement contrôlé par la société masculine, et ainsi de suite. Donc j'ai créé un secrétariat à la condition féminine, un secrétariat d'État. Il a été occupé par une femme qui était très célèbre, puisque c'était la fondatrice et la rédactrice de Elle, qui était Françoise Giroud. Et après à peu près trois ans, Françoise Giroud est venue me voir et m'a dit, écoutez, voilà, maintenant je vous demande de me retirer de ma fonction et de me faire faire quelque chose d'autre. Alors je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que je pense qu'en France, on a désormais réglé tous les problèmes de la condition féminine. Et je crois qu'on ne les a probablement pas réglés tous, mais on les avait réglés à 95%. Et d'ailleurs, les femmes en ont été reconnaissantes parce qu'en 1981, j'ai été battu dans l'élection présidentielle par le candidat que j'avais moi-même battu en 1974. Et ce qui prouve d'ailleurs que je ne suis pas le personnage du roman, parce que le personnage du roman, il fait un deuxième mandat. Alors chacun sait que ça n'est pas encore. Mais dans les votes de 1981, j'ai eu la majorité des femmes. J'ai été élu par les femmes et battu par les hommes.
Mmh. Également la preuve que ce n'est pas vous dans le roman, puisque c'est une histoire d'amour. Les protagonistes vont se marier, puisqu'elle va pouvoir, cette princesse, divorcer. Et ça aussi, c'est un acquis de votre trajectoire politique, le divorce par consentement mutuel. Finalement, on n'échappe jamais à sa destinée d'homme politique, de président, même quand on prend la plume en tant qu'écrivain.
Pardon ?
On n'échappe jamais à son destin de président, même quand on prend la plume en tant qu'écrivain.
Non, c'est... Enfin, bon... D'abord, vous oubliez que les fonctions ne sont pas l'être. L'être exerce une fonction, cette fonction change dans la vie, on est étudiant, élève, administrateur, militaire, etc. On prend des fonctions. Bon, mais l'être, il reste, il continue. Hein. Et même quand vous êtes président, il y a un être. Un être qui sent, qui observe, qui souffre de certaines choses, et ainsi de suite. Et donc, le livre est écrit par l'être, il n'est pas écrit par le président.
D'où aujourd'hui, vous connaissez une plus grande liberté, justement, d'où ces livres, d'où des romans.
Oui, enfin, ce n'est pas seulement une liberté, c'est l'envie de faire. Et, enfin, je suis comme... N'exagérons pas, mais comme Léonard de Vinci, n'est-ce pas ? Léonard de Vinci qui est mort en bois et qui continuait tout la fin de sa vie à peindre, à dessiner, etc. Il considérait que sa vie ne s'arrêterait jamais et qu'il fallait jusqu'à la fin faire des choses. Hein. Et moi, je pense la même chose. Il faut être utile ou en tout cas, il faut faire. Et donc, c'est une partie de ma vie que j'occupe à écrire. Et je vous indique, que j'indique au libraire que j'aperçois, que j'ai aperçu tout à l'heure, je lui indique qu'il y aura un prochain livre l'année prochaine.
Ah, mais voilà, déjà.
Mais enfin, qui suscitera moins de polémiques. Parce que celui-ci a suscité des polémiques, je ne sais pas si ça a été le cas en Belgique, à Bruxelles, pour une raison extrêmement curieuse, en fait. C'est que les journalistes, pas tous les journalistes, mais enfin beaucoup de journalistes, on commençait à le commenter sans l'avoir lu. Oui. Et donc, toutes les comptes rendus qu'on a eus pendant 3 ou 4 jours, c'était les comptes rendus de gens qui ne l'avaient pas lu et qui ont imaginé quelque chose. Alors, ils ont imaginé que je racontais mon histoire d'amour avec une princesse anglaise, ce qui est absurde. Parce que s'il avait eu lieu, je n'aurais évidemment pas écrit. Donc, c'est grotesque. Hein. Mais on s'est servi du titre, on s'est pour faire croire à cette interprétation. Et puis assez vite, les choses se sont corrigées, ils sont corrigés par la lecture. Parce que je n'ai pas reçu une seule lettre, c'est quand même très, très curieux, hein, pas une seule lettre de critique, pas une. J'ai reçu des lettres assez nombreuses, qui, de gens qui ont apprécié un passage ou un autre, qui soulignaient tel ou tel caractère du livre, pas une seule lettre de critique. Donc les gens ont compris que cette première présentation était malheureusement inexacte et le fait surtout très singulier de gens qui n'avaient pas lu le livre. Or moi, quand j'écris, je ne pense pas aux gens qui n'ont pas lu le livre, je pense aux gens qui le liront.
Voilà, et ces gens-là, ils sont présents parmi nous aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vais m'effacer pour éventuellement leur céder la parole si certains désirent vous interroger, poser des questions. Je vous demanderai simplement d'attendre que je me joigne à vous avec le micro afin que tout le monde puisse vous entendre. Donc je ne sais pas qui veut se lancer dans la première question parmi le public ce soir avant que nous passions à la séance de signature. Oui, non, peut-être. Ils sont plus sages que des journalistes, Monsieur le Président, ce soir. Ils sont plus sages que des journalistes. Voilà, ah voilà.
Bonsoir Monsieur le Président, donc est-ce que vous pourriez nous donner le thème de votre prochain livre, puisque vous nous avez déjà alléché.
Le titre.
Le thème. Oh, non.
Voilà. Le thème. Non, ce sera un thème justement historique, ça sera un roman, ça sera une fiction, mais qui se passera sous le Premier Empire et qui prendra naissance au moment de l'occupation de Moscou par la Grande Armée. Donc tout à fait un autre sujet, tout à fait une autre ambiance. Mais comme je suis un grand admirateur de Tolstoï et que j'ai mon livre « Guerre et paix », je l'ai tellement lu, j'ai voulu le ranger l'autre jour, mais la reliure m'est restée dans les mains parce qu'elle ne tenait même plus au livre. Et donc on a la version russe de « Guerre et paix », c'est-à-dire l'occupation de Moscou par la Grande Armée française. On n'a pas de version française. Et donc, je voudrais écrire une version française de cet événement et sa suite.
Voilà. Autre question.
Monsieur le Président, je vais sortir un peu de la littérature. Je ne vais pas vous demander une question, disons, de politique actuelle, compte tenu de votre position. Mais je voudrais savoir, de façon générale, si vous êtes optimiste pour ce qui est de l'avenir de l'Europe.
Si elle lit mon livre, oui. Je pense que ça donnera une espèce de gaieté à... Alors, non, l'avenir de l'Europe est en suspens, en fait. Et ça va se décider, non pas maintenant, à mon avis, mais dans les 10 prochaines années. N'est-ce pas, on vient d'adopter un traité, difficilement, moins bon que le traité constitutionnel, mais enfin assez voisin malgré tout. On commence à l'appliquer... Soyons francs, dans l'indifférence de l'opinion publique, ou une assez large indifférence, peut-être moins en Belgique, parce que vous êtes proche de la capitale, proche des personnages et des acteurs. Mais dans le reste de l'Europe, il n'y a pas eu de mobilisation pour la naissance de cette nouvelle Europe politique. Et il y a à l'intérieur de l'Europe, finalement, 3 destins possibles. Il y a le grand projet... c'est-à-dire la poursuite de l'intégration européenne jusqu'à ce que l'Europe devienne une entité politique. Une entité politique originale, puisqu'elle est faite de diversité, diversité nationale, diversité linguistique, etc. Enfin, une entité politique, c'est-à-dire que le monde extérieur sache que l'Europe existe. Donc, la première voie, c'était la voie des pères fondateurs. c'était la voix du couple franco-allemand dans les grandes années, des années 70-80, et c'était la voix du traité constitutionnel, auquel d'ailleurs vos hommes d'État ont contribué, puisque c'est le premier ministre belge, M. Verhofstadt, qui a été à l'origine, en fait, du procédure de la Convention européenne. Donc c'est la première voix. La deuxième voix, c'est la voix que préfèrent un certain nombre de pays, ouvertement la Grande-Bretagne, mais aussi d'autres pays, certains pays scandinaves. C'est au fond la suite de l'ancien marché libre, l'association de libre-échange. Au fond, il y a encore la culture qu'après tout, c'est pas la peine de se doter d'institutions politiques, c'est de compliqué, contraignant, etc. Si on a un grand marché qui fonctionne bien et une sorte de coopération souple des Européens, ça suffit. Et il y a, dans le groupe des Européens à l'heure actuelle, un groupe assez nombreux qui a cette opinion. Puis il y a une troisième perspective qui peut se produire, c'est que le système se délite. C'est-à-dire qu'il se défasse lentement. Parce qu'il y a beaucoup de différences, en fait. L'Europe s'est agrandie brusquement, mais elle ne s'est pas homogénéisée brusquement, en fait. Donc elle reste à l'heure actuelle très diversifiée, avec des tensions dans différents États, des réactions politiques, parfois très marquées, de réserves sur la poursuite de la construction européenne. Alors, le seul bon avenir pour l'Europe, à mon avis, c'est le premier. Mais il faut une nouvelle génération de fondateurs. Parce que les fondateurs ont fait le parcours 1950-2009. Il faudra maintenant de nouveaux fondateurs pour faire le parcours 2009-2050. Et j'espère que cette nouvelle génération apparaîtra partout, en France et en Belgique.
Voilà. Autre question ?
Vous pouvez applaudir, moi ça me gêne pas.
Je voulais savoir si vous pensiez qu'il était impossible à l'heure actuelle d'empêcher à court ou à long terme l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, et aussi quelles en seraient les conséquences à votre avis.
Bon, alors on sort complètement du livre. Je suis, comme vous le savez, très déterminé dans mon opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Non pas du tout que je porte un jugement négatif sur la Turquie, c'est tout à fait autre chose. La Turquie est un grand pays qui a de grandes capacités, en fait, des capacités militaires reconnues, qui ont expliqué son rôle dans la guerre froide, d'ailleurs, et des capacités économiques, industrielles importantes, un grand pays. Bon, ça n'est pas un pays européen. Ce que nous essayons de faire laborieusement, on y arrive, on n'est pas encore arrivé, c'est d'organiser l'Europe. Donc il ne faut pas, avant d'avoir organisé l'Europe, imaginer que des pays non européens vont y entrer et ils seront les principaux acteurs. Parce qu'au point de vue démographique, au moment de l'entrée éventuelle de la Turquie en Europe, elle serait le pays le plus peuplé et le principal décideur. Donc c'est un paradoxe. L'Europe doit d'abord s'organiser, exister et établir des relations avec ses grands voisins. Parce que nous avons plusieurs grands voisins. Nous avons la Turquie, mais nous avons la Russie. La Russie est un pays qui est quand même plus européen que la Turquie. Et la Russie n'entrera pas dans l'Union européenne parce que ses dirigeants ne le souhaitent pas et parce que ça poserait le problème de la Sibérie, qui est un problème pratiquement insoluble au niveau de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il faut organiser l'Union européenne, d'une part, et d'autre part, établir des relations de coopération organisées, élaborées avec nos grands voisins, Russie, Turquie, Ukraine et quelques autres. Donc voilà la position. Et il faut savoir qu'il y a deux crises possibles dans l'avenir européen des 10 prochaines années. Il y a une crise qui pourrait provenir d'un changement de ligne forte marqué par la Grande-Bretagne. Car si la Grande-Bretagne, à la suite d'une élection et d'un changement de gouvernement, modifiait profondément sa ligne politique sur l'Europe, ce serait un premier sujet de crise, bien sûr. Et le deuxième sujet de crise, ce serait la tentative de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, parce que vous aurez des votes négatifs dans un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, le premier pays d'Europe, dont la France, le deuxième pays d'Europe, dont l'Autriche et dont d'autres. Donc il faut faire très attention. L'entrée de la Turquie signifierait l'abandon du premier projet. Et donc, ça serait compatible avec le deuxième projet, mais incompatible avec la poursuite de l'intégration européenne.
Monsieur,
on va signer, parce que sinon, on n'aurait pas le
livre. Non, non, mais juste une dernière question, peut-être pour en revenir à votre fonction d'écrivain. Est-ce que ça vous a paru facile d'écrire? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez préféré écrire dans la journée, dans la semaine? Comment est-ce que vous avez travaillé?
Bon, d'abord, j'ai toujours, j'ai toujours beaucoup écrit. J'appartiens à une génération dans laquelle l'éducation française, et la vôtre c'était la même, était une éducation classique. Donc on écrivait, on rédigeait, ainsi de suite. J'ai appris le latin, le grec classique, la littérature française, etc. Donc à ce moment-là, on écrivait, on était d'ailleurs jugé sur ces textes écrits. Le bac était, c'était des épreuves écrites pour, principalement, etc. Donc l'habitude d'écrire. Je n'aime pas lire les discours écrits par d'autres, ce qui est le cas de la plupart des dirigeants politiques actuels. J'en ai même connu un en France, c'était assez curieux, il lisait toujours des discours qui étaient écrits par d'autres, et par moments, en le lisant, il marquait l'étonnement devant le texte. Et on voyait tout à coup son visage se crisper de surprise à la suite de ce qu'il était en train de dire. Donc j'ai écrit tous mes discours pendant mon septennat, ce qui représente un volume. Bon. Et puis j'ai toujours aimé écrire des nouvelles, des histoires, et j'en ai publié quelques-unes depuis longtemps. Alors j'écris à la main, avec un stylo, voilà. J'en avais parlé un jour à Mitterrand. Mitterrand également écrivait comme moi à la main. Et il m'avait dit, s'il y avait une plume noire, je m'en serais servi. Mais enfin, comme il y a plume noire, on se sert de trucs comme ça, etc. Donc j'écris à la main. Ça n'est pas pénible, comme pas un effort, c'est pas un effort. J'oublie totalement le temps. Aucune notion de temps. Donc les heures de repas, hop, disparaissent. Mes heures d'écriture, c'est pas très tôt le matin. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent ça tôt le matin, moi pas. J'écris de 10h à 1h, quelque chose comme ça. L'après-midi, de 3h30 à 6h, chose comme ça. Et puis je reviens le soir, parce que j'écris dans une petite maison qui est isolée. Et je reviens le soir pour écrire peu, 2 pages, donc ça veut dire 1h30. Hein. Par jour, mon débit est de 8 ou 9 pages. Si je ne fais moins, je suis mécontent contre moi-même, je me dis je n'avance pas, voilà. Mais je ne fais pas plus parce que comme mes textes sont écrits dans ma tête avant d'écrire sur le papier, je n'ai pas une réserve de textes à écrire, si vous voulez, qui dépasse 8 ou 9 pages. Donc voilà, c'est à peu près bon. Et voilà mon rythme et ma manière d'écrire. Alors à la différence de Flaubert, je ne sais pas, Flaubert qui était un ami de mon grand-père et que j'admire beaucoup, Flaubert lisait ses textes à haute voix. Vous savez, dans ce qu'on appelait son gueuloir, qui était près de Rouen, il sortait et il lisait à voix forte Salammbô, l'éducation sentimentale, etc., pour vérifier les sons. Et moi, ce que je cherche à vérifier, c'est les images. Hein, parce que je pense que nous vivons une époque visuelle. D'ailleurs, j'ai visité le musée Magritte, et il y a de très jolies phrases de Magritte sur l'importance de la vue, du regard. Hein, le regard très important. Et dans le monde moderne, il est probablement devenu plus important que l'écriture. Il faut donc que l'écriture reconstitue ou restitue l'image. Et c'est pour ça que mon travail, quand je relis mes textes, c'est de savoir est-ce que le lecteur pourra voir où il est, voir ce qui se passe, voir le temps qu'il fait, voir l'heure de la journée, etc. Donc voilà ma manière d'écrire.
Voilà, merci Monsieur le Président d'être parmi nous. Merci encore, il va être question d'écriture d'ici quelques instants puisque vous nous faites le plaisir à vous tous de signer les ouvrages. Donc je vous demanderai gentiment de faire une file de ce côté-ci le temps que nous prenions place un étage plus bas. Voilà.
Ici.